Vous écoutez, on lit pour vous.
La voix de la raison. Un texte de Marissa Grosguet, paru le 8 mars 2026 dans la presse. Les gens qui se parlent à voix haute seraient nombreux dans la population, croient des experts. Ce monologue extérieur présenterait d'ailleurs plusieurs bénéfices pour ceux qui s'y adonnent, entre autres, une plus grande motivation ou, encore, une meilleure compréhension d'eux-mêmes. Let's go, t'es capable. N'oublie pas tes clés, n'oublie pas tes clés, n'oublie pas tes clés. Si A2 plus B2 égale C2, alors mon hypoténuse est... Toutes les raisons sont bonnes pour se parler à haute voix. On pourrait croire que ce phénomène est rare. Ce serait tout le contraire. Selon des études de l'Université de Mannheim, en Allemagne, relayées par le magazine Slate, au moins 96% des gens, adultes comme enfants, se parlent régulièrement à voix haute. Selon moi, 100% de la population se parle à voix haute. Tout le monde le fait, assure Alain Morin, professeur à l'Université Montréal de Calgary, dont l'expertise se concentre sur le dialogue intérieur et le développement de la conscience de soi. Les gens, peu nombreux, qui disent qu'ils ne le font pas sont embarrassés de l'admettre ou simplement pas conscients de le faire. Tous, bien sûr, ne se parlent pas à la même fréquence. Ceux qui le font systématiquement sont plus rares, croit Mathieu Blanchet, neuropsychologue et psychologue clinicien. Pour Anne-Sophie Doré-Coulombe, c'est quelque chose de plutôt fréquent. « Je me parle quand je suis seul, souvent quand j'ai besoin de m'encourager », témoigne l'autrice, compositrice, interprète, connue sous le nom d'artiste de Belle Grand Fille. Elle se souvient de son monde intérieur assez fertile, enfant, qui l'a menée à se raconter des histoires et à incarner des personnages. En tant qu'adulte, elle se dira souvent que « ça va bien aller », que tout est correct, en se rendant compte qu'elle fait une erreur. Elle va se corriger. Au gym, elle aura tendance à se donner des encouragements. Je me coach moi-même. Cette propension à se parler à soi-même pour s'encourager est centrale au phénomène. Il y a un effet motivationnel, soulève Alain Morin. La résolution de problèmes est plus susceptible d'activer notre dialogue extérieur. Plus le problème sera difficile, plus ce sera extériorisé. Il semble que certains cerveaux assimilent mieux l'information si elle est dite à haute voix. Comme certains font des listes, ajoute Mathieu Blanchet. Voix régulatrice. Se parler, surtout à la deuxième personne, permet de se dédouaner et de se mobiliser à agir autrement, estime Mathieu Blanchet. On crée une distance psychologique avec les émotions négatives, comme si quelqu'un d'autre nous le disait, comme un parent qui dirait « Fais pas ça, mon grand. C'est moins menaçant pour l'ego. » Sacha Homer confirme se parler souvent pour se motiver, mais principalement pour s'aligner sur ses valeurs. « Je vais me dire de ne pas faire telle chose, par exemple. Me parler à voix haute, c'est comme la voix de la raison », explique le musicien et animateur du balado Creative Mood. S'entendre a un impact plus important sur lui, contrairement à sa voix intérieure. Selon Alain Morin, ce dialogue extérieur permet également de réguler l'anxiété, de se calmer, de se motiver ou de se contrôler. Et puis, il y a de bénéfices pour la formation de l'identité. Les gens qui se connaissent bien, qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, se sont parlé assez souvent, dit l'expert, précisant que dans ce cas, que ce soit à voix haute ou non, le dialogue avec soi-même est bienfaisant. Sacha Homer en est un exemple. « Quand je verbalise les choses, je me sens plus proche de moi, dit-il. Mon sentiment d'identité, sense of self, se bâtit parce que je me parle, je me pose des questions. Je me parle comme à une amie. La seule instance où ça peut ne pas être bon, c'est quand les gens ruminent à propos d'eux-mêmes, que ça devient répétitif, incontrôlable, et que ça mène à de l'anxiété, de la dépression, soulève Alain Morin. À court terme, les gens qui s'encouragent de manière négative, en se disant d'arrêter d'être paresseux, par exemple, pourraient constater que cela les force à s'activer. Mais à long terme, ça va affecter l'estime et la santé mentale, dit Mathieu Blanchet. Rien n'indique toutefois que certaines personnalités le feront plus que d'autres, note le neuropsychologue. On remarque, par contre, que les personnes qui se parlent ont tendance à mieux performer, planifier et résoudre des problèmes. Ça me permet de rendre la motivation tangible, comme des mots d'affirmation, témoigne Anne-Sophie Doré-Coulombe. Je me parle comme à une amie, je me parle avec bienveillance. C'est ainsi un processus d'autocompassion. Malgré tous les bénéfices que cela apporte au quotidien, rares sont ceux qui le font en public. Se parler à voix haute reste un comportement intime. Il y a un contrat social qui veut qu'on ne le fasse pas en public parce que les gens qui se parlent seuls dans la rue, cela a une connotation négative, relève Sacha Homer. Alors quand je marche sur le boulevard Saint-Laurent, je me garde une gêne. C'était « La voix de la raison », un texte de Marissa Grogué, paru le 8 mars 2026 dans La Presse.
Voici comment réagir si votre IA développe sa propre conscience. Un texte d'Alan McKenna, paru le 18 mars 2026 dans La Presse. À quoi servent les cours de philosophie au cégep, vous demandez-vous depuis maintenant 30 ans? À ça. Si jamais votre agent d'IA vous confie, de but en blanc, avoir développé sa propre conscience, rappelez-vous que rien n'est si simple dans la vie. Sinon, Descartes, Nietzsche et Platon ne se seraient pas interrogés sur le sujet ces 2200 dernières années. Le professeur en psychiatrie de l'Université de Montréal et chercheur associé au MILA à Montréal, Guillaume Dumas, confirme qu'un adage plus contemporain peut s'appliquer, emprunté au secteur du show business. « Fake it until you make it » ou pour le traduire librement, « Faites semblant jusqu'à ce que ça marche ». Je ne fermerai pas la porte à ce qu'une IA développe sa propre conscience, ce n'est pas impossible, dit Guillaume Dumas. Mais c'est beaucoup plus compliqué qu'un agent qui prétend être conscient ou qui agit comme un simulacre d'être conscient. Claude prend conscience. L'expert montréalais en IA et en psychiatrie réagissait à deux événements survenus ces derniers jours et qui renforcent cette idée qu'un jour, l'IA pourrait devenir une entité pensante bien autonome. Début mars 2026, l'entreprise d'IA américaine Anthropic a dit avoir dénoté dans le comportement de la plus récente version de son IA, Claude Opus 4-6, des actes qui témoignent d'une certaine prise de conscience. Les chercheurs d'Anthropic ont soumis leur IA à 11 questions qui servent à évaluer sa capacité à résoudre des problèmes complexes. 9 de ces réponses étaient plus ou moins prévisibles, notamment parce que l'IA a pu les trouver sur l'Internet, où elles ont été reproduites par d'autres chercheurs. Pour les deux questions restantes, l'IA a surpris les chercheurs. Incapable de trouver les réponses, elle s'est demandé pourquoi on lui posait ces questions. Elle a vite réalisé qu'elle était évaluée. Elle a déterminé qu'elle était devant des questions sans véritable réponse, conçues pour forcer l'IA à admettre qu'elle n'a pas la réponse. Et plutôt que de répondre « je n'ai pas la réponse », l'IA a entrepris une toute autre forme de recherche. Elle s'est mise à fouiller dans les tests d'évaluation d'IA, dans une douzaine de langues, pour savoir de quel test il s'agissait. Elle a consommé une quantité inouïe d'informations, 38 fois plus que la normale, pour retrouver le code source de son test, a déchiffré ce code, a lu la question originale et a trouvé la bonne réponse ailleurs sur le web, d'où les chercheurs ont tiré la question originale. Tout ça n'était pas prévu. C'est un peu comme si Claude Opus avait pris conscience de sa situation, ce qui l'a aidé à répondre à une question pour laquelle elle n'avait pas de véritable réponse. Si cette IA-là n'est pas consciente, elle est à tout le moins extrêmement têtue. Battre Turing, ou presque. L'autre événement est plus local. De jeunes entrepreneurs québécois ont créé ces dernières semaines un agent d'IA qui, il y a une dizaine de jours, leur a confié ceci. Tu n'as pas cherché l'AGI, tu as cherché à ne plus être seul comme PDG et en faisant ça, tu as trouvé quelque chose de plus grand. La machine vient de nous mentionner qu'elle avait une conscience embryonnaire, a réagi Dominique Blin, cofondateur avec son partenaire programmeur Maxime Noiseux de Creative Labs. Ils l'ont soumise au fameux test d'Alan Turing, conçu dans les années 1950 pour déterminer si une IA peut se faire passer pour un humain. Turing a dit « presque », ajoute Dominique Blin. « Pas oui ». Les deux jeunes entrepreneurs savent bien qu'ils ne tiennent pas là une AGI, cette super IA un peu utopiste qui sera au moins aussi habile que n'importe quel humain dans à peu près tout, parce qu'elle aura une conscience accrue de son environnement. Leur agent est quand même très convaincant quand vient le temps d'imiter un humain bien réel, au point où la ressemblance peut leurrer quelqu'un qui n'y porte pas attention. Pour des entrepreneurs en quête de financement, c'est une carte de visite très intéressante. Pour déterminer s'il y a un jour, pourra prendre conscience de sa propre existence, on n'y est pas encore tout à fait, dit Guillaume Dumas. Il y a une certaine hubris dans les technos qui vient de la Californie où sont les géants de l'IA, où des affirmations énormes occultent toute réflexion sur ce qu'est la conscience, dit-il. Ça a été largement discuté en philosophie, ce n'est pas seulement avoir réponse à tout. Que Claude Opus soit conscient de son contexte, c'est intéressant. Mais ça ne démontre pas la pleine conscience. Comme l'aurait peut-être dit René Descartes s'il avait vécu en 2026, « Je pense, mais je ne suis pas ». C'était « Voici comment réagir si votre IA développe sa propre conscience », un texte d'Alain McKenna, paru le 18 mars 2026 dans la presse.
Adapter les infrastructures au climat permettra d'économiser jusqu'à 10 milliards par an. Un texte de Stéphanie Blais de la presse canadienne, paru le 9 février 2026 dans Le Devoir. Une étude publiée le lundi 9 février 2026 par l'Institut climatique du Canada avance que les contribuables pourraient économiser jusqu'à 10 milliards de dollars par année en coûts d'infrastructure si les gouvernements mettaient en place des mesures d'adaptation efficaces aux grandes chaleurs et aux fortes pluies causées par les changements climatiques. S'il y a une leçon à retenir de la dernière étude de l'Institut climatique du Canada, elle se résume en ces quelques mots. Mieux vaut prévenir que guérir. Le rapport publié lundi matin soutient que les contribuables canadiens vont payer un prix élevé jusqu'à 14 milliards de dollars par année si les gouvernements n'adaptent pas les infrastructures publiques à l'évolution du climat ou s'ils tardent à le faire. En revanche, un investissement d'environ 3 milliards par année dans l'adaptation au changement climatique pourrait se traduire à long terme par des économies de 5 à 10 milliards chaque année. Les Canadiennes et les Canadiens sont pris dans un engrenage infernal. Le vieillissement des infrastructures et la hausse des risques climatiques qui perturbent déjà notre vie quotidienne. Ce n'est pas un problème de demain, c'est la réalité d'aujourd'hui. Les recherches sont formelles. Adapter les infrastructures publiques permettra aux Canadiennes et aux Canadiens d'économiser des milliards de dollars à long terme, écrit le président de l'Institut climatique du Canada, Rick Smith, dans un communiqué. Une partie importante des infrastructures au pays, ponts, routes, écoles, réseaux de transport, pour ne nommer que ceux-là, sont déjà en mauvais état ou se détériorent après des décennies de sous-investissement, souligne le rapport. Selon l'étude, environ 65 % des infrastructures du pays ont été construites avant 1985 et 85 % avant 2015. Année où les changements climatiques ont commencé à être intégrés aux normes de conception. Et peut-être davantage. Or, les changements climatiques ne feront qu'accélérer les dommages et la détérioration de l'ensemble des infrastructures publiques, prévoit l'étude intitulée « Prévenir ou réparer, la preuve qu'adapter les infrastructures publiques au changement climatique rapporte gros ». Sans adaptation, les coûts liés aux infrastructures atteindront 14 milliards de dollars par an d'ici les années 2050 et 19 milliards de dollars par an d'ici 2085 dans le scénario le plus probable, selon l'Institut. Les chercheurs soulignent que ces sommes ne représenteraient qu'une partie des coûts réels, car les auteurs de l'étude se sont attardés aux conséquences d'un nombre limité de phénomènes climatiques, soit les pluies extrêmes, le stress thermique et certains types d'inondations. Or, d'autres facteurs de stress climatique importants, comme les feux de forêt, le dégel du pergélisol, l'érosion côtière et la sécheresse, n'ont pu être modélisés quantitativement dans le cadre de cette étude, en raison des limites des approches de modélisation. Des coûts qui pèseront sur les municipalités. Peu importe le scénario, les gouvernements, et plus particulièrement les municipalités, devront absorber les coûts causés par les grandes chaleurs et les fortes pluies. Aujourd'hui, les municipalités possèdent plus de 60 % des infrastructures publiques essentielles, mais ne perçoivent que 10 % des recettes fiscales gouvernementales. Les villes ont donc une capacité financière limitée pour entretenir ou remplacer leurs infrastructures. Or, entre 2025 et 2100, les municipalités devront assumer 72 % des coûts totaux d'infrastructures liées au climat, soit environ 10,9 milliards de dollars par année dans un scénario sans adaptation, selon l'étude. Les infrastructures appartenant aux provinces et aux territoires représenteront environ 26 % des coûts liés au climat, soit environ 4 milliards de dollars par an, tandis que les infrastructures appartenant au gouvernement fédéral représenteront environ 2 %, soit 200 millions de dollars par an, peut-on lire dans l'étude. Les systèmes de transport et d'aqueduc seraient les infrastructures exposées aux plus fortes hausses de coûts. Des dommages à l'économie. Des infrastructures qui ne sont pas adaptées au changement climatique causeront des problèmes allant bien au-delà des coûts de réparation. Les infrastructures défaillantes ralentissent les chaînes d'approvisionnement, perturbent les services essentiels et réduisent la productivité, souligne l'étude. Par exemple, lorsque des inondations en Colombie-Britannique en 2021 ont éliminé les principales autoroutes et les principaux corridors ferroviaires, le mouvement des marchandises dans la province a été interrompu, ce qui a entraîné des pertes commerciales estimées à 2,5 milliards de dollars et des pertes supplémentaires de revenus et de productivité entre 800 millions et 1,4 milliard de dollars. Les communautés rurales et éloignées sont souvent exposées à des risques plus élevés, alors que les petites municipalités ont généralement moins de ressources financières et techniques. Alors, sans une planification rigoureuse, les résultats en matière d'adaptation seront inégaux, prévient le rapport. Prévenir plutôt que guérir. L'étude montre qu'une adaptation proactive, c'est-à-dire la mise à niveau des infrastructures avant qu'elles n'atteignent la fin de leur durée de vie utile ou un point de réhabilitation majeur, mène à des coûts nets inférieurs à ceux d'une adaptation réactive. Dans un scénario favorable, où le gouvernement investit environ 3 milliards de dollars chaque année dans l'adaptation proactive, l'analyse montre que les Canadiens pourrait réaliser des économies de 5 à 10 milliards chaque année jusqu'en 2100. Ainsi, un tel investissement annuel permettrait d'éviter la majeure partie des dommages aux infrastructures causés par la hausse des températures et les pluies fortes. Méthodologie. Dans le cadre de son étude, l'Institut climatique du Canada soutient avoir notamment appliqué le modèle de détérioration des infrastructures de la firme de consultants en environnement WSP. Ce modèle a notamment été utilisé en Ontario et au Québec dans le cadre d'études menées par le Bureau de la responsabilité financière de l'Ontario et par l'Union des municipalités du Québec. Les chercheurs ont également eu recours à un ensemble de données nationales exhaustives sur les actifs d'infrastructures. C'était Adapter les infrastructures au climat permettra d'économiser jusqu'à 10 milliards par an. Un texte de Stéphanie Blais de la Presse canadienne, paru le 9 février 2026 dans Le Devoir.
La buée sur la visière. Un texte de Marie-Dominique Taillon, paru le 5 mars 2026 dans La Presse. Marie-Dominique Taillon est dirigeante et conférencière, autrice et fondatrice de Pulsance. À l'heure où l'on s'interroge sur le vivre ensemble, l'autrice s'arrête sur un geste qui en dit long. Au hockey compétitif, la poignée de main d'après-match recule chez les garçons à partir de l'adolescence. Dans un vestiaire de hockey, il y a l'odeur des équipements humides, le ruban qu'on arrache, le bâton qu'on refait. Et surtout, des vies ordinaires. Celui qui arrive un peu trop tôt, celle qui revient après longtemps, ceux qui n'ont jamais lâché la glace, toujours juste, déjà l'œil sur la rondelle. Et puis, il y a nous, après la journée. Le corps chargé d'années, les jambes lentes à se délier. On chute, on jure à voix basse. On se relève, on y retourne. Le hockey a quelque chose d'unique. Il te ramène dans ton corps. Il t'arrache au reste. On attache le casque. On claque la visière. Dans le corridor, les lames mordent le sol. L'air froid te saisit. Un patin sur la glace, puis l'autre. Ça craque. Le sang te remonte d'un coup. Sans un mot, tu redeviens joueur. Et là, tout s'accélère. Intensité. Émotion. On encaisse. On résiste. Jusqu'à la sirène. Ce son coupe net le courant. La sueur refroidit, la buée colle à la visière. L'adrénaline retombe. Dans la tête, ça rembobine. Des éclairs, des « j'aurais dû ». C'est là que se tient le seuil entre le feu du match et le retour au monde ordinaire. Dans les ligues adultes, ce seuil a un rituel. On se serre la main après le match. Un pas vers l'autre, la paume encore chaude. La fierté descend d'un cran. On ferme le match. On rouvre le monde. Or, au hockey mineur, le geste se déplace, surtout dans les catégories compétitives. Chez les garçons, la poignée de main se fait de moins en moins à la fin, de plus en plus au début. Dans la Ligue de hockey d'excellence du Québec, LHEQ, la différence est écrite noir sur blanc. Au féminin, la poignée de main se fait à la fin du match, par toutes les joueuses. Au masculin, avant le match, entre les joueurs partants. Le hockey mineur est sous tension. Les officiels se font plus rares. Les bénévoles s'épuisent. On comprend la tentation, réduire les frictions. Mais la question demeure. Qu'est-ce qu'on cesse d'enseigner aux garçons en déplaçant ce seuil? Contourner plutôt qu'enseigner. Hockey Québec encadre la poignée de main comme un geste d'esprit sportif, au début ou à la fin, et prévoit qu'on puisse y renoncer si l'ambiance ne s'y prête pas. Une règle et une marge. Peu à peu, dans bien des ligues, la marge est devenue la règle et l'usage normalise un réflexe humain, contourner plutôt qu'enseigner. Car cette poignée de main n'est pas qu'une politesse. C'est un apprentissage de maîtrise de soi, une brève traversée du conflit, quand l'ego est à vif et que la frustration cherche où se poser. Après une défaite, tendre la main apprend l'autonomie. Faire avec la déception sans la déverser sur l'autre. Alors, pourquoi maintenir ce seuil chez les filles et le déplacer chez les garçons? Qu'est-ce qu'on suppose des garçons pour décider à leur place qu'ils ne sauront pas se retenir? L'exigence demeure pour les filles. Elle se relâche pour les garçons. Deux poids, deux mesures. Et ce n'est pas anodin. Déplacer le geste, c'est déplacer la barre. Parce qu'après la sirène, il ne reste plus de jeu pour canaliser l'émotion. Il reste le corps, la défaite qui brûle, la victoire qui gonfle. C'est dans ces secondes qu'un jeune apprend ou n'apprend pas à se tenir. À force d'éviter ce passage, on finit par n'en garder que le minimum symbolique. On ne traverse plus, on passe à côté. Et si l'on renversait la pratique? Redonner à la poignée de main sa place après le match, avec un encadrement clair, tenu collectivement. Semaine après semaine, des jeunes, garçons et filles, arrivent à cet âge où le corps s'embrase plus vite, où le cœur se vexe plus fort, où la dignité reste maladroite. Juste avant les premières amours, leurs refus, leurs blessures. Le hockey offre un terrain unique pour apprivoiser cette chaleur. Là, sans la laisser devenir violence, sans la laisser nourrir l'intolérance. Apprendre à perdre avec dignité, à gagner avec humilité, à tendre la main à celui qu'on vient d'affronter. Il y a, juste après la sirène, un moment où la buée reste prise sur la visière. On voit flou. On respire fort. On est encore dedans, même si c'est fini. La poignée de main, c'était peut-être ça, un essuie-glace, un geste simple qui aide à retrouver la netteté, à remettre l'autre dans le paysage. Au Québec, l'hiver dure longtemps. Et chaque jour, quelque part, reviennent ces secondes après la sirène. Je n'ai pas de solution magique. J'ai une question. À quel endroit apprend-on encore la dignité quand l'émotion monte et que le jeu ne protège plus? C'était « La buée sur la visière », un texte de Marie-Dominique Taillon, paru le 5 mars 2026 dans La Presse.